Vous écoutez RFI, la radio du monde, et il est 18h à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane, chez Bambi. Il est 21h en temps universel et à Yopougon, où était Bambi, et 22h à Paris, où est Bambi. Et le journal est présenté par Christophe Paget. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Claudicia, bonsoir à toutes et à tous. Jair Bolsonaro devant la justice. La Cour suprême du Brésil a décidé d'ouvrir un procès contre l'ancien président d'extrême droite pour projet présumé de coup d'État. Sarah Cozzolino nous en dit plus au début de ce journal. Manifestation ce mercredi à Gazaville au cri de Hamas dehors et Hamas terroriste. Depuis hier, des dizaines de groupes de Palestiniens manifestent, surtout dans le nord de la bande de Gaza, pour exiger la fin de la guerre et le départ du gouvernement du Hamas. À suivre le témoignage d'une Gazaoui. Et puis au Soudan, le chef de l'armée annonce la reprise de Khartoum. Peu avant, l'aéroport international de la capitale avait été repris depuis avril 2023. La guerre a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Jair Bolsonaro sera bien sur le banc des accusés. La Cour suprême a tranché ce mercredi en faveur de l'ouverture d'un procès contre l'ancien président brésilien et 7 de ses alliés. Ils seront jugés pour 5 chefs d'accusation, dont celui de tentative de coup d'État. À Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino.
Une décision très attendue qui ne surprend pas au Brésil. Jair Bolsonaro était déjà inéligible jusqu'en 2030 pour avoir mis en doute le système électoral. C'est ensuite un rapport de 900 pages de la police fédérale qui a accablé l'ancien président fin 2024. Ce mardi, les 5 juges de la Cour suprême ont voté à l'unanimité pour l'ouverture d'un procès. Le juge Alexandre de Moraes, ennemi juré de Jair Bolsonaro, a été le premier à voter. Il a tenu à illustrer son discours en diffusant des extraits vidéo des attaques du 8 janvier à Brasilia. Des images fortes d'incendies, de combats avec la police, de pillages et de destruction des institutions publiques. Personne n'était venu là pour se promener, a déclaré le magistrat, soulignant l'extrême violence de ces attaques. Au moment des faits, Jair Bolsonaro était en vacances aux États-Unis, mais son absence ne l'empêche pas d'avoir participé à une série d'actes et de décisions qui ont culminé dans ces violences du 8 janvier, ont conclu les juges. Un procès pourra désormais s'ouvrir et s'ils sont jugés coupables, Jair Bolsonaro et 7 de ses alliés risquent jusqu'à 40 ans de prison. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
L'Ukraine, ce mercredi, Kiev et Moscou s'accusent de vouloir faire échouer l'accord annoncé hier par les États-Unis, accord sur un cessez-le-feu provisoire en mer Noire et sur un moratoire concernant les frappes visant les infrastructures énergétiques. C'est dans ce contexte que Volodymyr Zelensky est à Paris ce soir. Il a rencontré le président français Emmanuel Macron qui dit constater la volonté de la Russie de réécrire ce qui a été décidé en Arabie Saoudite et qui affirme que la Russie doit accepter un cessez-le-feu dans les 30 jours sans condition préalable. Moscou veut que certaines des sanctions prises contre lui depuis le début de la guerre soient levées, sinon l'accord annoncé hier ne tient pas. Demain, un grand sommet est organisé à Paris par Emmanuel Macron, avec une trentaine de pays prêts à contribuer aux garanties de sécurité que les Européens veulent apporter à Kiev en cas de paix. Journée de colère à Gaza. Trop, c'est trop, scandent les Gazaouis. Depuis hier, des dizaines de groupes de Palestiniens manifestent principalement dans le nord de l'enclave pour exiger la fin de la guerre et le départ du gouvernement du Hamas. Une mobilisation inédite qui pourrait prendre de l'ampleur. Plusieurs appels à manifester, cette fois-ci dans l'ensemble de la bande de Gaza, ont été lancés. Témoignage à Beth Laya, recueilli depuis Jérusalem par Sami Bouhalifa.
Faites entendre notre voix, je n'ai pas peur des représailles, dit d'emblée Leïla, jeune mère de famille. Elle a convaincu son mari d'aller manifester.
On a décidé que les rassemblements devaient être restreints par peur des bombardements israéliens.
Les Gazaouis manifestent contre la guerre meurtrière menée par l'État hébreu et contre le gouvernement du Hamas.
Nous exigeons un cessez-le-feu et nous exigeons que le gouvernement du Hamas ne reste plus au pouvoir dans la bande de Gaza. Nous ne voulons plus de ces dirigeants du Hamas installés confortablement à l'étranger en Turquie ou au Qatar et qui décident à distance de ce qui est bon ou mauvais pour nous. Ces gens n'ont aucune idée des souffrances que nous endurons.
Mais cette révolte des Gazaouis concerne uniquement le Hamas basé à l'étranger, pas les combattants palestiniens dans la bande de Gaza, précise Laïla.
Les combattants palestiniens incarnent la lutte nationale contre l'occupation israélienne. Ces gens partagent notre souffrance à Gaza. Ils ont connu la faim comme nous, ils ont perdu leurs proches comme nous, ils ont tout notre respect.
Les Gazaouis veulent un gouvernement composé de responsables qui vivent en Palestine et qui veillent aux intérêts des Palestiniens. Leur priorité, la reconstruction de Gaza et la réhabilitation des systèmes de santé et d'éducation. Sami Bouhalifa, Jérusalem, RFI.
En Turquie, les manifestations continuent après l'arrestation du maire d'Istanbul et principal rival de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc qui a menacé l'opposition en suggérant que de nouvelles enquêtes pour corruption pourraient viser le parti républicain du peuple, la principale force d'opposition dont est issu Ekrem İmamoğlu. Et le président a appelé à, je cite, « arrêter de terroriser les rues ». Le CHP, qui appelait tous les jours à manifester devant la mairie d'Istanbul, appelle maintenant les stambouliotes à applaudir, klaxonner ou agiter des drapeaux à leurs fenêtres à 20h30 heure locale. De son côté, le directeur général de Reporters sans frontières demande à la Turquie de libérer les journalistes, dont un photographe de l'AFP. Ils ont été arrêtés cette semaine après avoir couvert des manifestations à Istanbul. Oceana a publié ce mercredi un nouveau rapport. Oceana, c'est la plus grande organisation internationale se consacrant exclusivement à la défense des océans. Et son rapport prévoit que l'utilisation de plastique par The Coca-Cola Company atteindra plus de 4 millions de tonnes par an d'ici à 2030 si l'entreprise ne change pas de cap. Et 4 100 000 tonnes par an, c'est le chiffre exact, ce serait une hausse de 20% par rapport à la consommation de l'entreprise en 2023. Igor Strauss.
Selon les estimations reprises dans ce rapport, chaque année d'ici à 2030, plus de 600 000 tonnes d'emballages plastiques utilisés par Coca-Cola se retrouveront dans les cours d'eau et les océans si l'entreprise ne change pas de modèle. Une quantité de plastique suffisante pour remplir les estomacs de plus de 18 millions de baleines bleues. Des chiffres vertigineux, mais sans surprise. D'après une étude publiée dans la revue Science, Coca-Cola est la plus grande source de plastique retrouvée dans l'environnement. Pourtant, des solutions existent. Selon Oceana, si Coca-Cola utilisait 26% d'emballages réutilisable d'ici 2030 contre seulement 10% en 2023, la multinationale pourrait infléchir sa courbe d'utilisation du plastique. Une bouteille en verre, par exemple, peut être réutilisée 50 fois et donc éviter la production de 49 bouteilles en plastique. Mais The Coca-Cola Company a fait un autre choix en investissant près $1 milliard pour acheter du plastique recyclé en 2022. Un contresens pour Oceana qui rappelle qu'une bouteille en plastique, même recyclée, alimente la pollution marine et affecte durablement la santé humaine en se décomposant.
Khartoum est libéré, c'est terminé, annonce ce mercredi soir du chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, depuis le palais présidentiel. Avant cela, l'armée soudanaise avait annoncé avoir repris l'aéroport de la capitale après avoir chassé les paramilitaires de la plus grande partie de la ville. L'armée, qui a été accusée hier d'avoir mené au Darfour, dans l'ouest, une des frappes les plus meurtrières depuis le début de la guerre, 270 morts sur un marché, selon des témoins. La guerre lancée en avril 2023 a fait des dizaines de milliers de morts et contraint plus de 12 millions de personnes à quitter leur foyer. RFI 22h08 à Paris. La santé mentale a été décrétée grande cause nationale 2025 par les autorités, mais en France, la psychiatrie est en crise. Selon un sondage effectué pour la Fédération hospitalière de France, plus de 50% des personnes interrogées ayant des problèmes de santé mentale ont eu au moins une fois des difficultés à accéder à une prise en charge adaptée. Et la pédopsychiatrie, donc destinée aux enfants, ne se porte pas mieux. Services hospitaliers saturés, manque de personnel en ville et à l'hôpital, alors que la santé mentale des jeunes se dégrade depuis plusieurs années. Le professeur Ludovic Jiquel, chef du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au centre hospitalier Laborit de Poitiers.
Sans une mobilisation des pouvoirs publics, on n'aura pas et on n'a déjà pas les moyens de pouvoir faire face au niveau de souffrance des enfants et des adolescents en France. Quand en 10 ans en pédopsychiatrie, les besoins de consultation ont augmenté de 100% à moyen constant, eh bien vous pouvez retourner le problème sous tous les angles, ça ne marche pas. Prenez par exemple mes lits d'hospitalisation à temps plein, j'ai le même nombre depuis 30 ans.
Est-ce que ça veut dire que parfois, par exemple, il y a des enfants ou des adolescents qui nécessiteraient d'être hospitalisés et que vous n'hospitalisez pas ?
Absolument, et je pense que là aussi, il faut pointer une chose importante, c'est que la représentation de la souffrance psychique n'est pas identique à la représentation de la souffrance physique. C'est-à-dire que finalement, le risque vital, le risque de se faire du mal, le risque de se tuer lié à la souffrance psychique n'est pas autant pris en considération que, par exemple, le risque qui est associé à une crise cardiaque, à une leucémie ou, je dirais, à une autre pathologie somatique.
Ludovic Jiquel, interrogé par Valérie Cohen. À Paris, troisième jour du procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle présumée. Malgré les témoignages accablants de deux plaignantes, l'acteur continue de nier les avoir touchées. Il parle tout au plus de frôlement. Une des plaignantes a raconté comment l'acteur l'avait agressé à deux reprises, sur les fesses et les seins. « Je n'ai pas fait d'agression sexuelle. Une agression, c'est plus grave que ça, je crois », a affirmé Gérard Depardieu. RFI 22h10 à Paris.